émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, les discussions sur la réforme des retraites se poursuivent alors que des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées hier face à la réforme des retraites. Édouard Philippe a annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot de 64 ans sous condition, tout en maintenant un âge d'équilibre dans le futur système universel par points. Les réformistes comme la CFDT ont salué ce retrait, marquant la volonté de compromis selon le syndicat. L'UNSA a évoqué un signe d'apaisement. Du côté des opposants, la CGT, par l'intermédiaire de Philippe Martinez, affirmé être plus que jamais déterminé à obtenir le retrait de la réforme. De son côté, Emmanuel Macron a salué un compromis constructif et de responsabilité. Trois kayakistes, deux hommes de 46 et 47 ans et une femme de 58 ans, ont été retrouvés morts la nuit dernière. Ils étaient disparus depuis hier 17h vers Cailleux-sur-Mer dans la Somme. Un quatrième kayakiste, un adolescent de 15 ans, a été retrouvé en état d'hypothermie. Il a été hospitalisé à Abbeville. Le parquet d'Amiens a ouvert une enquête pour rechercher des causes de la mort. Le Canada demande des comptes à l'Iran. Justin Trudeau a exigé que l'Iran fasse toute la lumière sur la catastrophe du Boeing abattu par erreur. Le premier ministre canadien, qui s'est déclaré scandalisé et furieux, a appelé Téhéran à assumer l'entière responsabilité de la catastrophe, y compris financière. Rien ne va plus pour la couronne anglaise. Elisabeth II organise une réunion lundi avec le prince Harry, le prince Charles et le prince William pour essayer de résoudre la crise déclenchée par l'annonce d'Harry et Meghan de se mettre en retrait de leurs obligations. Parmi les sujets abordés demain, le montant de la dotation financière attribuée au couple par le prince Charles ou encore la question de leurs titres royaux. Enfin, Lyon revient en forme lors de la 20e journée de championnat de Ligue 1 hier soir. L'OL a battu Bordeaux 2-1. Grâce à cette troisième victoire en 4 matchs, les Lyonnais remontent à la 6e place du classement provisoire.
Philippe et son équipe vous attendent dans quelques instants pour Tribune Sport évidemment, mais avant ça, eh bien voyons ce que la météo nous réserve pour ce dimanche, avec des températures qui tourneront autour des 9 degrés et un ciel qui restera plutôt dégagé, avec quelques nuages en perspective. Et à présent, c'est votre émission Tribune Sport, présentée par Philippe Carnus sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carny.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous. On avait fait notre entrée avec Tribune Foot la semaine passée. Eh bien, aujourd'hui, c'est la rentrée de Tribune Sport, première émission de cette année 2020, avec des invités, des fidèles, des habitués. On a deux Stéphane pour le prix d'un. Aujourd'hui, on accueille déjà notre ami Stéphane Camp pour les sports mécaniques. Il est venu en voisin de Vieille Église. Bonjour Stéphane, bonne année.
Bonjour Philippe, bonne année. Bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, je suis de Vieille Église, donc j'ai le local de l'étape.
Voilà, c'est ça. Ça se passe bien cette année 2020, hein. on va parler sport mécanique, mais bon, vous avez un grand projet dans quelques semaines.
Oui, nous on est parti pour disputer le Rallye Monte Carlo historique à nouveau avec Benoît. Mmh. Donc une nouvelle aventure humaine. On va faire ça comme la dernière fois, un petit peu avec une toute petite assistance, mais on emmène tout avec nous. Donc voilà, si on veut parcourir le parcours du Monte Carlo comme à l'époque.
Le mythique Rallye de Monte Carlo.
Exactement.
Voilà. Et justement, Benoît, il est là. Il va dire bonjour. Je sais qu'il est pas très bavard, il aime pas trop parler, mais c'est pas bien grave. C'est la nouvelle année, il va nous souhaiter bonne année. Ça va, Benoît? Bonjour.
Bonjour.
Bonne année, pleine forme?
Mais oui, pleine forme avec Stéphane, donc on se prépare. Et moi, je pense que ça va bien se passer.
Il n'y a pas de raison.
Tout tranquillement.
Voilà. Très bien. Et puis, je vous avais promis deux Stéphane pour le prix d'un. C'est le deuxième Stéphane. C'est Stéphane Renaud pour le sport canin d'Olainville. Salut Stéphane, ça va?
Bonjour Philippe. Bonne année aux auditeurs.
Bonne année.
À tout le monde. Bonne année. Hein? Donc, Stéphane et Benoît. Donc,
voilà. Tout plein de projets. C'est votre troisième participation sur notre antenne. Hein. On s'était vu à Dourdan, Stéphane, lors de la foire, hein, pour une interview. Vous êtes venu parler deux fois de votre discipline. Alors, quels sont les projets pour 2020?
Justement, déjà, merci de me réinviter. D'ailleurs, c'est très sympa de venir.
On est là pour ça.
On est bien là. Alors, donc, effectivement, on refait encore la foire de Dourdan cette année. On va refaire des démonstrations, des activités pour montrer ce qu'on fait. Voilà. Du sport canin, etc. Donc, lors de la foire de Dourdan, qui a lieu premier week-end d'avril, de mois. Ensuite, après, 1er 2-3 mai, on va organiser des épreuves de recherche utilitaire, des chiens qui cherchent les personnes disparues. Et ensuite, le 11 et 12 juillet, on organise un pré-sélectif championnat de France, donc à Olainville. Voilà.
Mmh. Alors, Olainville, on va rappeler, c'est pas très loin d'ici, c'est tout près d'Arpajon. On reçoit bien notre radio, donc tout est parfait. Hein.
Voilà, exactement. C'est pas très loin. Voilà. On est des voisins.
Mmh. Alors, quoi de neuf? Bon, vous étiez venu parler de présenter votre activité sportive en 2019, il y a des choses qui se sont donc arrangées, donc ça va vous permettre de bien débuter de 2020.
Oui, exactement. C'est vrai que la première fois que je suis venu ici, on était dans la tumulte avec la Société Centrale Canine qui avait pris des décisions unilatérales pour supprimer notre championnat de France et nos sélectifs. Là, on a dû aller en justice pour faire valoir nos droits. La justice a retoqué la SCC en lui expliquant qu'elle devait respecter le droit français. Donc la SCC a obtempéré, on a donc eu notre championnat de France au mois de décembre, tard dans la saison, mais c'était une belle fête réussie à Pauillac, donc une très belle fête réussie, et on a eu notre championnat, on s'est tous retrouvés, c'était très sympa, et cette année il aura lieu comme à l'accoutumée au mois de juin. Donc la saison commence en mars, ça va faire très près, il va falloir qu'on bosse dur pour que nos chiens soient prêts, et elle commence en mars, et donc en juin on aura notre finale à Albertville cette fois-ci.
Ah, très bien. Alors, Stéphane, présentez un peu le sport canin, parce que c'est vrai, les premières émissions, nous on parle de tous les sports sur l'antenne d'Herveux, mais c'est vrai que quand on parle de sport canin, on est loin d'imaginer qu'il y a des compétitions.
Alors le sport canin, ouais, c'est très méconnu en France, pourtant c'est pratiqué par un grand nombre de personnes, il y a pas mal de licenciés, on est nombreux, c'est un sport qui est très suivi, les finales sont toujours une grosse fête, ça touche pas mal de personnes, et c'est basé sur plusieurs choses. La première, c'est sur, on a des exercices de saut, des exercices d'obéissance et d'exercices de mordant sportif, dans lequel le chien exécute des exercices de manière très sportive. D'ailleurs, il y a une différence d'ailleurs entre le mordant sportif et le mordant utilitaire, c'est deux choses différentes. Et en fait, on met 3 à 4 ans pour construire un chien.
Ouais, 3 à 4 ans, donc il faut les prendre très jeunes.
Voilà, on commence à l'âge de 2 mois. Mm-hmm. On entraîne nos chiens presque tous les
jours. Trop tard pour le chien.
Oui, non, moi j'ai encore un an et demi pour le mien, mais bon, il est bien parti, mais j'écoute, je suis attentif.
Il faut savoir qu'en fait, ce sport, il est réservé depuis la loi de 2008, et de 99 avec les amendements de 2008, à une liste de chiens très stricte, et on peut pas travailler n'importe quel chien. Ils doivent remplir des critères.
C'est-à-dire lesquels, Stéphane?
Alors, les critères, c'est déjà appartenir aux races autorisées, d'accord? Donc, les bergers belges, bergers allemands, Rottweiler, il y a un ensemble de chiens, pas tous, Doberman, qui ont le droit de faire du mordant sportif. Ensuite, après, derrière ça, vous devez avoir une licence. Vous devez être entraîné par quelqu'un qui a une capacité qui a été décernée, qui était par la préfecture. Donc c'est la préfecture qui vous octroie le droit de pratiquer cette activité.
D'accord.
Alors, c'est très encadré. Les chiens doivent être licenciés, le conducteur doit être licencié, les hommes assistants, toutes les personnes qui en encadrent doivent être licenciées. Enfin, c'est un sport très encadré, très réglementé. Puis voilà.
Donc, et ça coûte cher pour avoir la licence?
Non, les licences coûtent pas extrêmement cher, puisqu'une licence chien, c'est 22 euros. C'est pas ça qui coûte très cher. C'est l'ensemble du sport qui revient assez cher, puisque on n'a pas de débouchés particuliers, si ce n'est les administrations parfois qui cherchent des chiens dans notre milieu. Mais sinon, non, c'est vraiment un sport passion.
Alors après, on prépare son chien. Donc, ça se passe comment, un entraînement?
Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme un athlète de haut niveau.
C'est ça qui est intéressant.
Voilà, les chiens sont traités comme des athlètes de haut niveau. On a tout un staff entre guillemets. On a notre ostéopathe. Chaque club a son ostéopathe à lui, on a, si vous voulez, c'est un peu comme un athlète. On va le préserver son intégrité physique, etc., mentale. Il y a tout un tas de choses qui se mettent autour de ce chien. Et on a des ateliers à travailler, et les uns associés aux autres permettent d'avoir un chien complet. Donc il y a la condition physique, il y a les exercices, l'apprentissage des exercices qui sont très longs parce qu'on peut pas faire vite, et voilà, et on a quand on met ça bout à bout, à la fin on a un programme complet qui dure 40 minutes.
Et donc ça se forme au bout de 3 ans. Il faut mettre 3 ans pour que le chien soit opérationnel, quoi.
On peut pas comprimer le temps, et on doit respecter le développement, la maturité du chien, son développement physique. Par exemple, si on va parler des sauts, toute personne qui se respecte attend vraiment environ, en fonction de la morphologie de son chien, pour commencer les sauts, que le chien est entre 10 et 15, 18 mois, ça dépend du physique. Sur un Rottweiler, commencer les sauts avant 15 mois, c'est pas recommandé. Sur un Malinois léger, on peut les commencer à 10 mois, 12 mois, voilà. Faut attendre une certaine maturité physique pour commencer les sauts, par exemple. Ensuite, après, quand vous construisez des exercices comme des positions à distance, où on donne au chien assis, couché debout, que le chien est dans un petit rectangle tracé à la craie et qui ne doit pas bouger de ce rectangle, vous êtes à 20 mètres, bon, bah, c'est un exercice qui prend du temps à se finaliser. Mmh. Quand vous travaillez les exercices de mordant sportif, la garde d'objets, où le chien est dans un, garde un panier, par exemple, et il doit protéger son panier, il doit jamais en sortir sur un cercle de 1 mètre, c'est assez compliqué à travailler. Il faut des fois 15, 18 mois pour la finaliser.
Ouais.
Donc tout ça, ce sont des exercices qui sont compliqués et qui font qu'on sélectionne des étalons et des lisses.
Ah, c'est comme
des corps sains, voilà, ouais. Exactement, avec des corps sains, des aptitudes au travail assez très élevées, puisque la France est quand même un référent dans la matière. Mm-hmm. Et on est parmi les leaders mondiaux au niveau de la compétence technique. Et on va être capable de sélectionner, pour l'élevage français, des chiens de très très grande qualité, qui sont connus dans le monde entier.
Alors je suppose qu'il y a aussi une alimentation particulière pour que le chien, justement, soit compétitif, quoi.
Bah, sans faire publicité, le plus grand centre de recherche. Ouais. Sur l'alimentation canine, il se trouve en France. Mm-hmm. Je ne vais pas donner citer la marque, mm-hmm. pour ne pas faire de, ouais. de problème. Mais c'est, donc en France, dans le sud de la France, on a une marque qui a investi énormément dans la recherche. Et aujourd'hui, on bénéficie d'une alimentation très haut de gamme et de très très grande qualité pour nos chaînes de compétition, et qui est sous forme de croquettes. On peut y apporter des compléments alimentaires. Par exemple, moi, sur les périodes de chaleur, on va donner des compléments avant et après le sport pour que le chien ait une bonne récupération musculaire. En plus, ça apporte un certain plaisir au chien de manger quelque chose de très agréable, d'ailleurs, pour lui, et avant et après les entraînements. Et on va vers ce type de produit pour maintenir un équilibre, je dirais biologique même, pour le chien. Mmh. Un chien qui n'est pas en bonne santé, il peut pas donner le meilleur de lui-même, hein, c'est une évidence.
Ouais. Et les carrières, elles durent longtemps. Un chien de compétition, c'est combien? C'est 7 ans, 8 ans, 10 ans?
Ouais, c'est l'ingratitude de notre sport. C'est qu'on va mettre 3-4 ans pour construire un chien. Et quand il va sortir en compétition de haut niveau, il a entre 3 ans et 4 ans en moyenne. Mmh. Et la fin de carrière se fait entre 6 et 8 ans.
Donc,
ça dure pas très très longtemps et on bosse énormément. C'est pour vous. Il n'y a pas de réelle rentabilité, c'est plus une passion. Il y a une complicité qui se crée avec le chien qui est extrêmement forte. J'en avais parlé dans les effets précédentes émissions. Les chiens ne nous aiment pas, ça c'est une idée reçue. Les chiens, ils s'attachent à leur maître et l'attachement, ça prend de longs mois. Ouais. Je considère qu'il faut à peu près entre 12 mois et voire 24 mois pour avoir un vrai attachement avec son chien. Et c'est basé sur la confiance et le respect. De la confiance et le respect naît la complicité, de la complicité, l'attachement.
C'est une question que j'allais poser. Il y a fatalement une complicité, mais on peut changer de maître et de coach.
Ça va surprendre pas mal de personnes, mais un chien qui a moins d'un an va changer de maître assez facilement. Pour lui, c'est plus un problème. Il doit conserver ses habitudes. Donc, si le chien, il avait un mode de vie qui était très agréable et d'un seul coup, il se retrouve à vivre l'enfer, bah, c'est pas terrible. Mais un chien qui change de maître et qui va dans de bonnes conditions, si vous voulez, il s'y fait. Le chien, c'est un opportuniste. Et il va s'y adapter. Mmh. Voilà. Il va s'adapter à sa nouvelle vie si on lui propose quelque chose de bien. Si vous voulez, c'est toujours pareil. S'il est bien traité avec les maîtres qui suivent, il sera heureux, le chien. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, on fait beaucoup d'anthropomorphisme là-dessus. On croit que le chien, vous comprenez, il aime, etc. Non, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, vous avez un chien pendant 4-5 ans et il change de maître, là c'est un traumatisme pour le chien. Donc c'est sûr que ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à vivre et c'est des choses qui sont un peu dommageables quand on doit se séparer d'un chien et qu'il a déjà un âge avancé. Il aura plus de mal à s'y faire.
Et une fois la carrière terminée, que deviennent ces chiens? Ils ont une valeur marchande?
Ils ont une valeur affective.
Oui. Non, mais c'est bien.
C'est plus important.
Un chien qui gagne des lots, des prix, des trophées, est-ce que...
Non, pas réellement. En fait,
pour les chevaux, quoi.
En fait, les chiens exceptionnels font des saillies. D'accord. Donc, c'est qui plaisent ou qui ont des aptitudes de sportifs, des aptitudes de l'ensemble au niveau du travail et qui sont capables de donner des qualités de saut. Ces chiens-là, effectivement, vont faire des saillies, etc. Mais en règle générale, un chien qui arrive en fin de carrière, il termine sa vie chez son maître.
Oui, heureusement.
Et en plus, il vous a tellement fait plaisir, surtout s'il a été finaliste. Cette année, Olaville a mis un chien en finale. Mmh. Bah, j'ai été manger chez mon ami hier avec son chien de finale. Bah, ouais, il était là. C'est un petit peu le champion, quoi. Je veux dire, c'est un chien qui a à peine 4 ans, donc c'est sa première finale, sa première participation, première finale.
Ouais.
Donc il va faire peut-être 3-4 saisons de plus. Non, en général, il y a un lien très fort qui se crée et on accompagne nos chiens jusqu'au bout, on les garde. C'est un chien de compagnie. Mmh. Les chiens, ils vivent dans la maison. Hein.
Oui.
Petite question, justement, on parle de saillie, effectivement, il y a un petit côté un peu comme dans le domaine équin. Par contre, il y a un petit clin d'œil à Géraldine. Beaucoup plus de chiens ou des chiennes ont des compétences? Ça fonctionne comment? Parce que là, on aimerait bien savoir.
Alors, justement,
Et il y a des spécialistes, il y a des chiens qui sont spécialisés dans certaines épreuves, ou certains sont bons dans tout, certains sont...
Alors, c'est vrai que le leader du chien de travail en ring, ce que nous on pratique actuellement là, c'est le malinois. Berger belge malinois. Mm-hmm. Après, vous avez les tervurens issus de souches malinoises qui sont si bons, etc. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, le leader du chien de travail dans le monde, c'est le malinois. Pourquoi? Parce que les éleveurs, ils ont été vers un chien de travail. Ils ont privilégié les aptitudes comportementales et physiques. Mm-hmm. Ce que aucune autre, par exemple, le berger allemand, aujourd'hui, sur des lignées de beauté, bah, je vais le dire, ça va faire hérisser les poils à beaucoup de gens, c'est devenu un handicapé. Ouais. Avec, qui a perdu ses aptitudes au travail, physique et mental. Aujourd'hui, la surangulation, ça n'existe pas dans la nature. Ils ont surangulé le berger allemand et ils ont obtenu un chien qui n'est plus capable de faire les sauts, qui n'est plus capable de faire plein de choses, parce que en fait, ils ont voulu avoir quelque chose qui ressemblait à ce qu'ils ont rêvé dans leur tête, mais ils ne sont pas posé la question de la fonctionnalité du corps. Mmh. Donc le problème dans le Doberman, le problème dans tout un tas de races où on a fait des erreurs, où l'homme a joué à Dieu. Avec les chiens, sachant que le chien a une capacité extraordinaire, qu'il est le seul mammifère à avoir, c'est cette évolution génétique. On fait des races très rapidement, vous croisez les chiens, et hop, vous pouvez fixer très rapidement les particularités physiques. Mais attention à vouloir
jouer. Ce qui était problématique aussi pour certaines races, ou à vouloir trop jouer à l'apprenti sorcier, certains chiens sont devenus même un petit peu dangereux.
Mais il se trouvait que les gens qui avaient dangereux. La main, ce sont les gens qui faisaient ça. Aujourd'hui, en France, on a un problème avec ça, c'est que la Société Centrale Canine est dirigée par des gens qui ont fait ça. Donc, ils n'ont pas trop envie d'être jugés aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu problématique. Donc, y a énormément de races qui ont des ennuis, des problèmes. Ouais. Et le phénotype aussi amène des maladies. Alors, le phénotype, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que les chiens se ressemblent tous.
Oui.
Voilà. Clairement, c'est ça. Et quand les chiens se ressemblent tous, de fait, ils ont un peu les mêmes gènes.
Tout à fait. Bah, c'est les lois de la génétique, hein, malheureusement.
Ouais. Et les gens confondent consanguinité et le fait d'avoir les mêmes gènes. Ouais. Il y a des choses un peu différentes. Dans le Malinois, il y a de la consanguinité de travail, mais ils l'ont fait sur des chiens qui étaient des bâtards à l'origine. Donc avec un sang qui était renouvelé. Aujourd'hui, on a des chiens sur des lignées de beauté. Ils sont tous pareils à la naissance, ils se ressemblent tous, etc. Comme si on a voulu faire des copies conformes d'un chien parce qu'on le trouvait magnifique, beau, à leurs yeux, hein, parce que pour moi, un beau chien, c'est un chien qui se porte bien. Et en fait, ils en sont arrivés à déclencher des maladies génétiques de ce fait.
Il y a des races plus caractérielles que d'autres au départ.
Alors, vous avez
c'est comme les humains.
Alors, j'aime pas trop parler en race, je préfère parler en courant de sang.
Oui.
Alors, parce que si vous prenez le berger allemand de beauté et le berger allemand de travail, vous avez deux races différentes. Pour moi. D'ailleurs, sur un plan purement technique, quand on les regarde, c'est une évidence. Donc, ils appartiennent à la même race, normalement. Mais en fait, on voit bien qu'on a affaire à deux sujets différents, avec des aptitudes comportementales différentes et un corps différent. Ce qui est exactement pareil, par exemple, sur le Malinois. Vous avez le Malinois de beauté et le Malinois de travail. Vous avez deux races différentes. Et qui appartiennent à la même race, qui devraient être sous la même étiquette. Donc, en fait, non, vaut mieux parler en courant de sang. Quand vous êtes sur des lignées de travail, si vous prenez un chien sur une ligne de travail, qu'elle soit de chasse, de travail mordant sportif, etc., il faut aller de très bonne heure dans un club d'éducation canine pour pas galérer plus tard. Les gens qui prennent pas à la mesure de ce qu'ils doivent faire avec leur chien, donc un chien, c'est à 3 mois qu'on commence, jusqu'à l'âge de 18 mois, et ça se fait gentiment, patiemment, en attendant que le chien évolue, en suivant sa maturité, pour avoir un résultat de bonne qualité, en plus un résultat très agréable, qui fait que le chien va s'intégrer dans sa famille, avec tout le monde, avec tous les membres de la famille, les animaux, etc. Il faut prendre son temps. Il faut être extrêmement patient, et il faut se donner le temps. Le temps de s'occuper de son chien, etc. Donc, le problème, c'est plus les courants de sang.
Ah, c'est ça.
Ou des fois, on voit dans des familles, j'étais récupéré une chienne il n'y a pas très longtemps, là, où les gens ils étaient dépassés par les événements. Cette chienne était extrêmement gentille, mais ils étaient dépassés par les événements parce qu'ils n'ont pas pris la mesure du chien qu'ils avaient chez eux. Voilà.
Et dans les compétitions, ça se passe comment? Il n'y a pas de injustice parfois? On s'estime un peu lésé, c'est comme en patinage. Hein. On dit non, je méritais sur le concours, sur ce qu'on
alors sans,
juge.
Sans, ouais, mais bon. Sans, c'est un petit peu difficile. C'est mieux qu'ailleurs et on a encore des soucis. Ah, les soucis sont du fait que, si vous voulez, étant donné que c'est géré de façon humaine et par un système qui n'est pas démocratique, on ne peut pas élire nos représentants. Et effectivement, les gens qui ont été nommés en haut, ils choisissent un petit peu leurs copains.
C'était pareil au patinage artistique, voilà. Moment, hein. Ça l'a été pareil à un moment.
Installé, ouais, c'est encore un petit peu ça. Ça pose un peu encore des problèmes. On a encore des problèmes là-dessus. Je vais donner un exemple. Bon, on était content de faire notre finale, etc. Mais par exemple, une des personnes qui participe au championnat de France avait son fils dans le jury.
Donc fatalement,
ça biaise un petit peu.
Ouais, voilà. Ouais, ouais, il a été champion de France et c'est un très bon dresseur avec un très bon chien. Il y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais si vous voulez, ça pose un problème pour tous les autres. C'est-à-dire de se dire bon bah voilà, on va être en concurrence avec ce monsieur, mais c'est son fils est dans le jury. Mm-hmm. Bon, c'est encore des choses qui doivent disparaître et on doit plus permettre ce genre de choses pour éviter au moins qu'il y ait pas confusion des genres. Mm-hmm. Voilà, qu'on reste des conflits d'intérêts, quoi, on va dire.
Il y a beaucoup de clubs canins dans le coin. Bon, il y a le vôtre, hein, Stéphane, mais il y a beaucoup de,
oui,
j'allais dire confrères.
Oui, il y a pas mal de clubs. Et des clubs
tous sur la même optique.
Vous avez Morpa,
oui, bah, quand même.
Il y a pas mal de clubs en Île-de-France. Hein, je me souviens plus du nombre exact, mais en utilisation, ils sont moins de 50. Et non, ça, il y a pas mal de clubs.
Ouais. Et c'est un job, un métier qui suscite des vocations. Est-ce qu'il y a des jeunes qui rêvent d'être coach canin?
Alors j'ai.
Il y a des filières.
J'ai toutes les semaines pratiquement quelqu'un qui veut faire ce métier et faut pas perdre de l'idée. Aujourd'hui, il y a des lycées qui forment des futurs éducateurs, éleveurs, etc. Pour tout ce qui est éducation et dressage, aucune formation en France convenable existe. Mm-hmm. Même l'éducation nationale ne forme pas d'éducateurs de qualité. Mm-hmm. Donc en fait,
c'est un peu inné, quoi, c'est ça? Ouais,
non, il faut faire du sport avec son chien, faut des activités qui vont dans lesquelles vous allez être sanctionné par vos résultats. Ce que vous faites avec votre chien, vous êtes bon, vous avez des résultats, etc. Et faut rentrer dans des clubs avec des gens de compétences. C'est quand même la meilleure des filières pour se former. Il faut pas faire croire aux enfants qu'ils vont pouvoir vivre facilement, ils travaillent pas bien à l'école, on les fait faire ça. Ça fonctionne pas.
Ouais, non, bien sûr.
Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça et on faut dire la vérité, il vaut mieux travailler à l'école, faire une formation, avoir un bon métier et se faire plaisir après dans sa vie privée, dans son sport, dans sa passion avec son chien et éventuellement peut-être par la suite faire une réconversion dans ce milieu.
Mm-hmm. Mais un sport avec animal, c'est pas évident quand même, hein, parce que justement il y a l'échange, faut être patient à l'écoute, autant en plus on peut discuter avec avec quelqu'un, mais avec un animal, on doit être à son écoute en permanence. Hein, lui peut rien dire, donc il faut vraiment s'adapter. Hein, c'est pas évident. Je pense qu'il faut vraiment avoir quelque chose à la base. Hein. Ça s'invente pas.
Ah, complètement, il faut surtout se donner le temps et rien ne se fait sans temps. Pour former un éducateur canin, c'est 3 ans de qualité. Pour former un comportementaliste, c'est 15 ans.
Voilà. Ah oui, effectivement.
Donc aujourd'hui, il y a des centres qui forment des comportementalistes en 6 mois. Bon, bah, faut savoir que c'est des escroqueries. Voilà. Mmh. C'est impossible. Ouais. Ça n'existe pas.
Ouais. Allez, Guillaume, dans le casque, il faut envoyer la pub et la musique. Alors on y va. Allez.
Vous êtes à la recherche d'un terrain, d'un local d'activité, de bureau, d'un entrepôt, d'un local commercial? Vous souhaitez connaître les opportunités et disponibilités actuelles? La bourse locaux de la communauté d'agglomération vous permet de trouver sur l'une des 36 communes du territoire des opportunités immobilières et foncières répondant à vos besoins. En collaboration avec les professionnels de l'immobilier, la bourse locaux est gérée par le service développement économique de Rambouillet Territoire qui a pour mission d'aider les entreprises à s'installer dans les meilleures conditions. Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin. RVE. RVE. Vivez votre région.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels. We'll be right back. taille d'impérator. Font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, naturellement, vous reprenez les bonnes habitudes. Hein, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, tout comme le Tribune Foot de la semaine passée, puis également toutes les émissions sur 2019, hein, Tribune Sport, Tribune Foot, Tribune Rugby, eh ben, elles vous sont encore accessibles, donc n'hésitez pas à les réécouter. Stéphane, on va juste finir. Olainville, donc c'est ouvert 7 jours sur 7, votre centre?
Presque, sauf on est fermé le mardi et le jeudi.
D'accord, ok. Ah. Sinon, on vous contacte si on a des problèmes avec un chien, en dehors de la compétition. Hein.
Mais il faut qu'il vienne de la part de RVE.
Alors, pas de problème, très bien. Ok, allez, l'autre Stéphane, donc Stéphane Kang, qui lui se prépare pour un immense événement, c'est le rallye de Monte Carlo historique, Stéphane.
Tout à fait, 23e ouais. du nom, ce sera le deuxième ouais. pour nous.
Dans quel état d'esprit?
Oh là, on est confiant.
La voiture, elle est
bon, la voiture, on l'a vu, on ouais. l'a amené justement. Donc, bah écoute, on est en train de finaliser les préparatifs. Donc, elle est sortie du garage hier. Pratiquement tout est bon. Bon, on a encore quelques petites choses à faire, mais on est plutôt confiant et on a hâte un peu d'être au départ de Reims le 31, de passer les vérifications techniques et puis bah, de partir dans la nuit, le fameux parcours de concentration toute la nuit qui nous emmènera du côté de la Drôme provençale à Buis-les-Baronnies le samedi matin. Et le samedi après-midi, on attaque avec deux zones de régularité où on est sur route ouverte et on doit respecter une moyenne. On a une balise qui nous prend en permanence au niveau des temps et il faut être le plus près possible du temps imparti. Et voilà, c'est le jeu, c'est rouler sur route ouverte et une moyenne déterminée.
Alors, parlez-nous un peu de la voiture, parce que ça aussi, c'est une grande première.
Ah bah oui, hein bah, Benoît va plus en parler, parce que voilà, c'est Benoît, sa voiture, donc ouais. une Autobianchi A111.
Ouais, c'est ça. Oui, alors, c'est le retour d'Autobianchi.
C'est le retour d'Autobianchi. Hein alors,
j'ai bien lu aussi.
Il y a beaucoup de passionnés automobiles qui connaissent Autobianchi, donc c'est une marque du groupe Fiat, c'est une marque italienne. Oui. Pour un modèle qui est la 112, qui a été beaucoup représenté en compétition. C'est une toute petite voiture, ça ressemble à une Mini. Et nous, en fait, c'est la version, c'est une berline. Donc c'est la version un peu plus luxueuse et un peu moins rapide. Et surtout beaucoup plus rare. Donc on doit en compter, il doit en rester à peu près une dizaine en France.
Oh là là.
Et c'est une voiture à l'époque qui était importée par Citroën. et avant que ça ne repasse chez Fiat et chez Chardonnay. Mais c'est Citroën qui vendait avec Chardonnay à l'époque les Auto Bianchi à 111. Donc c'est, voilà, c'est une petite berline très 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 petite. Hein, c'est...
Alors elle est toute belle, oui, hein, toute briquée là. Oui. Bon, il faut qu'il revienne comme ça.
Ah
hein.
Mais on va faire ça attention.
Ça va être compliqué. Ouais.
Alors après c'est un petit peu plus compliqué effectivement parce que bon on va quand même plus de 3000 km.
Je me doute.
Donc on va faire tout l'école des Alpes, la nuit du Turini.
Ouais,
donc on va
le célèbre Turini,
donc le parc du Mercantour. On va quand même avoir des routes difficiles à emprunter, donc on va la ramener, ça c'est sûr. On va
peut-être.
Alors
non
souvent, malheureusement, à la fin du rallye, il y a quelques concurrents qui quand même ont quelques petits bings sur la voiture. Bon, nous on part déjà pour parcourir tout le rallye, pour rentrer, pour se faire plaisir, pour c'est vraiment.
C'est de le finir, l'ambition, c'est de le finir.
Comme disait Benoît, bon, la voiture, elle est plutôt, plutôt rare. On n'a pas envie non plus de finir dans un ravin. On a envie de revenir avec. Voilà. Donc, avant tout, nous, l'ambition, c'est de finir. Après, bon, c'est la compétition.
Ouais,
donc, quand
jeu,
on
fatalement.
Est 200, on dit, bah, tiens, on va faire 180. Quand on est 180, 150, etc. Donc, on va jouer, parce qu'on va jouer le jeu. Mais avant tout, on prendra pas de risque. Voilà.
C'est un budget combien de combien la voiture c'est... et puis les déplacements,
Le rallye en lui-même.
L'assistance, vous allez avoir l'assistance, je suppose.
En fait, on a une toute petite.
S'il y a de la casse.
Voilà, l'assistance va être, c'est Pierre, le président du rendez-vous de la Reine, qui va venir nous donner un coup de main et on le remercie parce
Pierre
que c'est.
Pierre Popu, qui est longtemps venu à ce micro, Pierre, parce qu'il a.
C'est un compétiteur.
Il a une longue carrière de pilote auto. Hein.
Tout à fait. Donc, on le remercie. Il va nous aider, nous emmener du matériel. On sera prêt à se retrouver sur le routier au besoin. Mais sinon, on emmène pratiquement tout dans la voiture. On va être en autonomie complète. Mais le budget que pour le rallye, il faut compter un peu plus de 6 000 euros quand même. Entre l'inscription, les frais d'essence, les nuits d'hôtel, tout ce que ça comporte.
Et puis des partenaires aussi.
Alors les partenaires, on cherche encore des partenaires. Donc si quelqu'un est intéressé, il n'y a pas
Stéphane
de souci.
Voilà,
on cherche toujours des partenaires. Donc on a un peu de place sur la voiture encore pour mettre quelques sponsors. Donc ce sera avec plaisir si vous voulez partager cette aventure avec nous. Mais donc on a quelques partenaires. On a les Impériales notamment qui nous aident. Bien sûr, on est soutenu par l'association Le Rendez-vous de la Reine. Voilà, donc on continue un petit peu de chercher des partenaires à droite à gauche.
Bon, vous connaissez très bien tous les deux, vous êtes très complices, c'est un peu comme le chien puis son maître.
Ah oui, oui, ça doit faire peut-être 5, 6, 10 ans qu'on se connaît, enfin c'est...
Jamais de coup de gueule, jamais
non,
de...
Non,
dans la voiture ça se passe toujours très bien.
Quel est le pilote?
Ah, on alterne.
Vous
en fait, c'est une épreuve où on peut alterner.
Ouais. Ça, c'est bien.
Et on fait une épreuve sur deux en pilote, copilote. Alors, j'avoue, je suis très mauvais copilote.
Ouais.
On a des bonnes anecdotes. Quand moi, je donne les instructions pour guider Stéphane, j'arrive à le faire rentrer dans des villages alors qu'on devrait être sur la route.
Ouais, on a quand même eu, pendant le dernier Monte Carlo, deux grands moments. Une fois, on est arrivé un petit peu à l'envers à un contrôle. Et donc le commissaire nous a dit, oh là là, faut remettre votre carnet, vous êtes disqualifié. Et en fait, heureusement, ça s'est bien passé, il souriait. Mais sur le coup, on était vraiment un petit peu on était déçus parce qu'on pensait que le rallye allait s'arrêter là. Mais c'était juste à la fin et ça avait peu d'importance. Et puis dans la dernière nuit, effectivement, un carrefour assez compliqué où il y avait bien sûr en pleine nuit, la nuit du Turini, c'est dans la nuit du mardi au mercredi. Il faut 3h du matin, tout en haut d'école, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a personne. Et voilà un carrefour avec plein de routes. Bon, forcément, on n'a pas pris la bonne. Donc, le temps de s'en rendre compte, les routes de montagne, le temps de faire demi-tour et tout, bon, on avait perdu un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est faire les spéciales, redécouvrir le rallye à l'ancienne. Voilà, c'est un rêve de gosse. Hein, c'est,
oui, non, mais bien sûr.
Après, pour ce qui est vraiment compétition, moi je fais de la compétition moderne maintenant, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même challenge. Voilà, là c'est vraiment...
Oui, là c'est du rallye, c'est pas de la piste quoi.
Voilà, exactement, là c'est vraiment du plaisir avant tout.
Bon, il y a une conduite différente, il y a une préparation physique aussi, Stéphane. Vous faites du vélo, vous faites de la course à pied.
Ah, moi, je fais tous les
matins, vous partez.
Ce matin encore, justement, avec mon chien, on va courir.
Voilà,
je l'emmène même faire
les chiens, ça sert à.
Ouais, tout à fait.
Dans les dunes, là-bas.
Je fais même, quand je vais faire un tour de VTT, il court avec moi. Il adore, il fait des longs parcours, il est infatigable, il adore ça. Et donc, moi, ça me fait du bien. Ouais, non, bonne préparation physique, obligé.
Donc, on va rappeler du 29 janvier au 5 février, c'est-à-dire la semaine qui suit le Monte Carlo, hein,
tout à fait,
qui va ouvrir la saison des rallyes, le mythique rallye de Monte Carlo, ouais, qui ouvre la saison des rallyes.
Voilà, bah, le Monte Carlo, c'est dans 10 jours maintenant, ça arrive vite, premier rallye de la saison, avec tous les changements dont on avait parlé.
Quand Dakar se termine, le Monte Carlo commence.
Voilà, c'est toujours comme ça, et c'est pour ça que certains pilotes arrivent à cumuler. Il y a eu des fois où quelques pilotes ont fait d'abord le Dakar après le Monte Carlo. Donc voilà, janvier, c'est quand même au niveau sport auto, c'est quand même un gros mois. Il y a quand même beaucoup de belles épreuves et c'est le début de la saison. Nous, ça part de, c'est une année calendaire et dès janvier, c'est.
Bah, les saisons sont courtes finalement parce qu'elles terminent en novembre.
Ah bah hein, c'est
avec, même décembre maintenant
tout
avec la Formule 1.
L'intersaison est très très courte. Là, effectivement, la Formule 1 va bientôt, les essais vont bientôt recommencer. Le premier Grand Prix, bah, c'est toujours au mois de mars. Ouais. Donc finalement, ça passe très vite. Le temps de, au niveau de l'ingénierie, de faire les nouvelles voitures, de faire évoluer les voitures. Il y a peu de temps de libre.
Vous avez du monde sur bord des routes qui vous encourage, qui prolonge la fête. Quoi.
Beaucoup.
Il y a ce rallye de Monte Carlo. Et il y a le Monte Carlo historique.
Alors,
après.
Le Monte Carlo historique, il faut voir que en fait, c'est le vrai rallye Monte Carlo comme il était pratiqué.
C'est l'ancêtre, c'est le premier.
C'est donc on parcourt toute l'Ardèche, on fait le plateau du Vercors, la Haute-Loire. Donc là cette année, voilà, on va jusqu'à presque jusqu'à Saint-Étienne. Donc faut voir que c'est de Monaco à Saint-Étienne, c'est tout le quart sud-est de la France que l'on va parcourir. Et c'est très très populaire. Effectivement, on a du monde partout. Et quand on avait fait le rallye il y a 4 ans avec la R30, tout le monde venait nous voir en disant voilà. C'était le patron avait ça, mon oncle en avait une, tout le monde vient discuter, parce qu'en fait il y a la passion de l'automobile ancienne, le monde d'aujourd'hui est bon, il est ce qu'il est, donc avec des voitures qui maintenant procurent quand même beaucoup moins de
plaisir.
Vous n'allez
pas me dire que tout le monde pourrait conduire une voiture de course quand même.
Non, mais les voitures anciennes amènent un plaisir que l'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui, et donc ceux qui voient des voitures de passer au bord des routes, ils ont envie de communier et de venir, de les voir passer, de nous poser des questions, voire de participer. Je suis sûr que voilà, le nombre de spectateurs aimeraient être à notre place. Donc là, on a conscience de la chance qu'on peut avoir de participer.
Et la nuit, c'est une approche différente.
Là, faut pas être fatigué.
Comment on fait pour dormir justement?
La nuit, on dort pas. Alors en fait, on fait pilote copilote, donc on peut. La descente jusqu'à Bulle-et-Baronnie, jusqu'à Valence se fait assez facilement, donc là on peut quand même être pas trop attentif au niveau du copilotage, donc pourquoi pas fermer les yeux un petit peu, mais en général l'excitation fait qu'on on ferme pas beaucoup les yeux. Quand on arrive à un contrôle horaire, c'est-à-dire qu'on doit passer, on doit pointer dans la minute, à l'heure et à la minute impartie, quand on arrive avec un quart d'heure, 20 minutes d'avance, bon bah là on ferme les yeux, mais c'est un peu comme en navigation, les épreuves au grand large, on dort.
Et en fait
on se réveille, on sommeil profond 5-6 minutes, tac, on se réveille, on voit l'heure, on se dit non, c'est pas encore ça. Puis il y a le froid aussi, parce que c'est un rallye hivernal, donc le froid aussi pique un petit peu, mais c'est vraiment des micro siestes, mais ça fait du bien. Par contre, la première nuit en règle générale, quand on arrive le samedi, là ce sera à Valence cette année, alors là on dort très tôt, on écrase et on a besoin de récupérer.
C'est sûr. Il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est inopiné.
Non, il n'y a pas de contrôle antidopage. Alors, le contrôle antidopage, c'est plutôt sur la voiture, chez nous. C'est la mécanique qui parfois est démontée. Ouais. Dans les sports mécaniques, il y a quand même pas mal. Il faut dire que malheureusement, il y a quelques personnes qui ont tendance à modifier un petit peu leur véhicule. Il y a toujours de la triche.
C'est fou.
Dès qu'il y a une compétition, malheureusement, encore une fois, nous on fait ça par pur amateurisme plaisir, mais les gens qui font ça pour la gagne, et qui ou parfois c'est leur métier, c'est leur carrière, ils vont tout faire pour y arriver, malheureusement parfois c'est limite de ce qui est tolérable.
Tiens, ça me fait penser à l'autre Stéphane, il y a des contrôles antidopage pour les chiens dans vos sports?
Ils avaient commencé à mettre ça plus ou moins en place, mais il faut savoir que nos chiens de travail sont tellement qualitatif que honnêtement
ça servira pas à grand chose.
Je pense que pour nous c'est très important d'avoir une c'est un petit peu dans notre culture aussi d'avoir des chiens qui sont sains dans un corps sain, qui ont des aptitudes exceptionnelles qui leur permettent de réussir les épreuves. Donc aujourd'hui une épreuve ça dure 40 minutes, quand il fait très chaud ça peut être dur pour certains chiens, ça c'est vrai, mais on sait lire nos chiens, on a une vraie expérience là-dessus, quand même les juges en règle générale quand même ils savent voir le conducteur, les juges, les gens sur le terrain, et le spectateur savent, il y a vraiment des gens compétents, donc quand un chien commence à avoir un signe de faiblesse, on sait le retirer à temps. Mmh. On a vraiment, et puis il faut savoir que nous c'est un sport sur le volontariat. Ouais, le chien il a ni collé ni laisse pendant tout le parcours. Mmh. Donc en fait s'il veut pas faire l'exercice, il le fait pas,
bah
et,
oui, bah
est,
oui.
Et c'est zéro. Et puis si ça continue, c'est disqualifié. Mmh. Donc si le chien n'est pas volontaire dans la pratique, donc ouais, nous on a le dopage, ça marche pas trop, quoi. Ça c'est pas vraiment utile. Mmh. Ça a eu existé, hein. Mais c'est
ouais, zéro. Bah oui, non, j'imagine.
Ouais, nous le dopage ça va se limiter à beaucoup de café, je pense au début.
Ouais, bien sûr. Bien sûr.
Et l'accident, Stéphane, on y pense parce que alors, vous m'avez montré quand même une photo d'un accident que vous avez eu il y a quelques mois. Hein,
ben, l'accident, ça va tellement vite.
C'est quand même assez impressionnant.
Qu'au bout du compte, on n'y pense pas. Et voilà. Donc en fait, oui, on y pense. Voilà.
Et on
tant
pas.
Voilà, tant qu'on a confiance. Donc là, j'étais copilote. Tant qu'on a confiance dans son pilote, dans la voiture, il n'y a pas de raison. Bon, voilà, l'accident, ça arrive. Hein, c'est toute pratique sportive. Mais même, on peut glisser dans son escalier chez soi, l'accident est toujours bête, mais quand on a mis toutes les chances de son côté, quand on a bien préparé la chose, normalement ça ne doit pas arriver. Donc là c'est pareil, on va encore une fois, la voiture est prête, on s'entraîne, on a, moi j'ai l'habitude de rouler quand même en montagne, Benoît aussi, on se fait plaisir de temps en temps des week-ends automobiles, on va rouler sur des petites routes pour se faire plaisir, donc il n'y a pas de souci, on a fait des épreuves, voilà, maintenant si ça doit arriver et on n'a pas envie que ça arrive, ce sera la fatalité.
Oui, on le sait que
maintenant,
on sait que ça fait partie
si,
de...
Si voilà. On a peur, on arrête, mais c'est comme beaucoup de compétitions. Il y a certains sports qui sont tout aussi dangereux. Hein.
Oui.
Après, c'est un rallye de régularité. Donc, on est aussi soumis au code de la route. Et on a une moyenne maximum de 50
km. Ah d'accord,
code
de la route quand même.
Oui. Ah oui, donc
on peut pas traverser les villages qui sont à 50, on peut pas les traverser à 90, 100.
Et on a une moyenne imposée qui doit être inférieure à 50 km/h au global. Donc,
ah
de toute façon,
ouais, c'est justement la question que j'allais poser. À quelle vitesse vous êtes, à quelle vitesse vous abordez les virages, par exemple?
C'est tout à fait justement le jeu, c'est de respecter le code de la route, c'est sur route ouverte. La seule chose, c'est que lorsque on est en pleine sur la nationale départementale, etc., ça se fait assez facilement. Mais le jeu, en fait, c'est d'aller prendre les plus petites routes et de gravir les sommets, qui parfois ne sont pas déneigés l'hiver, la D2 ne passe pas dans certains endroits. Il y a des routes forestières qui sont fermées toute l'année que nous allons emprunter pour le rallye. Et c'est là où tenir la moyenne, être à la seconde près, toujours en raccord avec le temps imparti, c'est là que la difficulté. Mais c'est vrai que là, on fait pas du tout en moderne, on prend des 150, 160, 180 faciles sur des petites routes. Là, en fait, on est rarement au-dessus de 60 km/h.
Mais en montagne, sur la neige, tenir un 50 km/h de moyenne,
ça, c'est du sport.
Ça revient à rouler au maximum, quelque part, des capacités, des pneumatiques, des dimensions, dans les virages. Il faut pas, on roule pas à fond. Mais on roule, c'est dynamique. Voilà.
Voilà. Et ce sont des voitures anciennes. C'est-à-dire qu'il faut voir, il n'y a pas d'assistance, on n'a pas des pneus taille basse surdimensionnés, et ça va de la, il y a des belles voitures, il y a des Lancia Stratos, il y a des monstres du rallye, mais ça va, il y a des petites Triumphes, c'est vraiment, ça s'adresse aux voitures de rallye des années 50 à 1980. Donc voilà, il y a peu de modernisme dans les voitures que nous avons pour participer au rallye.
Et vous avez des pilotes célèbres qui participent à ce rallye Monte Carlo. Vous parliez des Lancia Stratos. On se rappelle ceux qui ont fait le mythique rallye Monte Carlo. Ils doivent peut-être essayer de continuer l'aventure.
Cette année, assez incroyable. Nous qui sommes fans de sport auto. Moi, je suis fan de rallye depuis que je suis gamin et tout. Donc, tout le monde connaît Walter Rohr, le grand pilote allemand qui a gagné 4 fois le Monte Carlo, 4 voitures différentes. Eh ben, je pourrais dire que j'ai fait un rallye en même temps qu'Walter Orle, parce qu'il est au départ cette année. Donc, champion du monde.
Ragnotti, ils sont pas, non?
Alors, Ragnotti l'a pas fait cette année, mais il y a 4 ans, il l'avait fait. Il était venu. Ouais, on avait participé avec Ragnotti. Il était même venu nous signer la voiture. On avait fait des photos ensemble quand on était sur une Renault et c'était très sympa. Donc là, il y a Bruno Sabi qui a gagné le rallye en 88 sur l'ancien qui était champion. Oui, exactement. Ouais. Donc, Bruno Sabi est au départ. Il y a Renaud Altaonen qui a gagné le rallye en 67 sur Mini. Il le refait sur une Mini. Donc, quelque part, c'est ça aussi. C'est un sport où là, les pros, le sport auto, en fait, amateurisme et professionnels, les amateurs et les professionnels sont ensemble. Et là, ça nous permet de participer. Donc, il y a des hommes, des femmes, il y a des équipages mixtes, des équipages 100% féminins. Voilà, c'est vraiment, tout le monde est là. Et c'est vraiment agréable de participer. Donc, ne serait-ce qu'avec Walter Orle. Là, c'est un, si on le rencontre,
Oui,
bah
oui.
Et ben, je lui parlerai allemand.
Voilà.
Et j'ai une question, Moi, ce qui m'inquiète le plus, j'entends bien la difficulté, de rien physique, c'est l'endormissement au volant, quoi. C'est pas, on n'a pas peur de s'endormir au volant des moments, non? Que ça paraît, c'est long, c'est usant, ouais. C'est de l'endurance.
La première journée, on part de Reims, effectivement, vers 20h, 21h, et on roule la nuit, mais on fait des petites pauses. Donc, c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, on se repose 15 minutes, 10 minutes. Au global, sur notre premier rallye Monte-Carlo, on a fait la première journée, on a eu 22h30 sans s'arrêter quelque part. Donc c'est beaucoup. Mais après, il faut voir, voilà, qu'on peut dormir une demi-heure, on peut dormir 15 minutes, on fait des micro-siestes. Et au final, de toute façon, si on se sent trop fatigué, on s'arrête.
Ouais, on s'arrête et puis après on peut permuter pilote copilote. Mais de toute façon, après ça se passe au mental. Hein.
Je vais souvent couvrir le rallye
pour faire des comme photographe. Mmh. Et quand je suis tout seul dans la voiture, alors là j'ai encore moins le temps de dormir parce qu'il faut être arrivé avant pour prendre les photos, tenir pendant toute la ZR et quand il y a 300 voitures, ça dure plus de 5 heures et repartir après. Tout ça, c'est ça la préparation physique. Hein, faut tenir. Non, c'est
ouais, c'est là que le mental intervient, ouais, c'est voilà, le ressource insoupçonnée qu'on
voilà,
a.
Exactement, la préparation physique et le mental, ouais. Et tenir et avancer. Alors bon, c'est sûr qu'on est, mm-hmm. on est fatigué, hein, on est mm-hmm. un peu cramé le samedi soir. Mais non, c'est le jeu aussi. Hein.
Mm-hmm. Et ça dure combien de jours?
29 janvier au 5 février, jours. Ça fait une bonne semaine. Hein.
On parle vendredi soir, ouais, ça se termine dans la nuit du mardi au mercredi matin, la fameuse nuit du Turini, et on va arriver sur le port de Monaco vers 3h du matin, quelque chose comme ça.
Bon, et après c'est la délivrance, vous êtes un autre homme, Stéphane?
Ah bah après c'est sympa, ouais. Bah la journée...
On dit je l'ai fait.
Ouais, exactement, bah là c'est toujours un grand plaisir quand même de faire ce rallye, après on a une journée off à Monaco, donc c'est toujours sympa parce qu'il fait
là,
plutôt...
Là on se lâche.
Voilà, là on se lâche, on va voir les copains, on va sur le port, on profite un petit peu, le soir, le mercredi soir, il y a la soirée de gala, mmh. où donc là il y a la remise des prix, c'est mmh. comme le Monte-Carlo, oui, avec il y a les autorités monégasques qui viennent remettre.
Vous avez tous les officiels qui viennent,
tout à fait. Alors,
la Fédération française, Fédération internationale.
Parce qu'en fait, comme c'est à Monaco, c'est le Automobile Club de Monaco qui organise.
Le prince vient?
Alors non, pas le prince, il y a le premier ministre, en fait, je sais pas comment il l'appelle, je me souviens plus trop, je vais pas dire de bêtises, mais oui, non, il est présent, donc les autorités monégasques sont là, l'Automobile Club de Monaco est représenté, et donc il y a un podium en bonne et due forme, il y a une soirée de gala avec nous, on est forcément en tenue de soirée, les femmes robe longue, c'est sympa, cause, hein. Après il y a soirée, bon, en général... Vu le rallye qu'on a fait, nous on va se coucher. Oui, mais sinon on peut faire la fête toute la nuit. Hein.
Oui, justement, c'est une question que j'allais poser. Votre entourage, il réagit comment? Vos femmes, vos compagnes, votre entourage, c'est la peur pendant une semaine, elles prennent des nouvelles, des infos. Elles sont habituées.
Ouais, voilà, elles sont habituées. Ouais. Et puis après, c'est une passion, donc quelque part.
Non, mais c'est un sport
à risque. C'est un sport à risque, mais encore une fois, moi, je vois ma fille qui fait de l'équitation quand elle est en concours.
Elle peut tomber aussi,
c'est ce qu'on disait. Il y a d'autres sports à risque. Le vélo, il y a plein de copains qui tombent en vélo, qui se brisent les vertèbres. Malheureusement, le VTT de descente pour certains, c'est un sport à risque, même s'ils sont bien protégés. Enfin, il y a d'autres sports à risque. Donc voilà, après c'est le sport à un certain niveau, voilà, il y a certains sports qui présentent des risques. Mais bon, ça se passe bien, il n'y a pas de souci.
Oui, il n'y a pas de raison. Bon, alors vous nous tiendrez au courant de vos résultats, on donnera ça le 9 février.
Ouais, tout à l'heure, avec plaisir.
Hein, voilà. Alors, il y a d'autres choses après, Stéphane, pour vous, une fois que la voiture après, elle est vendue, qu'est-ce qu'elle vient?
Moi, je garde la voiture.
Troisième rendez-vous de chaque dimanche.
Voilà,
troisième dimanche de la Reine, on l'expose, parce que ça faut dire.
Tout
il y a ça.
Alors,
il y a tous les troisièmes dimanches, les rendez-vous de la Reine.
Dimanche prochain.
Alors, venez la voir.
Oui,
en écoutant Tribune Sport.
Exactement, parce qu'en fait, c'est alors un petit peu avant Tribune Sport, c'est possible, parce que c'est à partir de 9h où on se retrouve sur le parking. Par contre, la balade part à 10h30. Donc là, ce sera en pleine émission. Écoute, on viendra faire un petit coup de klaxon. Mais sinon, donc oui, la semaine prochaine, c'est déjà le 135e rendez-vous de la Reine, donc une association réservée aux véhicules de plus de 30 ans, mais finalement 30 ans, maintenant on arrive aux années 90, début 90, donc ça fait des voitures que tout le monde a pu connaître, et là encore il y a pas mal de personnes qui viennent voir, ne serait-ce que les Youngtimers, les voitures des années 80, les 205 GTI, toutes ces petites sportives qui ont fait rêver tous les quinquades maintenant, on a tous envie de revivre un petit peu les plaisirs qu'on n'avait pas pu avoir à l'époque. Par contre, après, bien sûr, on a aussi pas mal d'anciennes des années 60, 70. Mais donc l'association, oui, c'est 140 membres. On n'est pas tous là à chaque fois, mais à chaque rendez-vous, il y a de plus en plus de voitures qui viennent avec des gens qui sont pas forcément inscrits.
Donc, on le rappelle, Stéphane, c'est tous les troisièmes dimanches de chaque mois. Vous verrez tous les troisièmes dimanches de chaque mois la voiture.
Exact. Alors pas forcément, elle sera peut-être pas là tous les rendez-vous, mais elle sera là souvent.
Ouais.
Donc en fait, oui, il y a une bonne centaine de voitures. Il nous est même arrivé d'avoir de doubler, voire tripler ce nombre. L'année dernière, lors de la brocante, on était à l'hippodrome de Rambouillet,
oui,
et ça avait été phénoménal. Voilà,
c'était l'anniversaire.
Exactement, c'était. Voilà, pour cette brocante au mois de mai. Et d'ailleurs, cette année, en fait, alors, l'hippodrome fonctionnant de mieux en mieux, on n'aura pas le week-end de la brocante, l'hippodrome sera pas libre. Donc, la brocante aura lieu sur le parking du Leclerc, comme d'habitude, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Par contre, on sera à l'hippodrome le troisième dimanche de juillet. Et là, l'équipe est en train de mettre en place le deuxième concours d'élégance. En espérant attirer.
C'est difficile, troisième dimanche de juillet, mais enfin.
Voilà, c'est.
Il y aura peut-être les vacances, ça sera le Tour de France.
Mais il faut savoir que le rendez-vous de la reine ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de vacances.
Ouais,
donc le troisième dimanche de juillet, il y a du monde. Le troisième dimanche d'août. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens qui sont en vacances, donc qui viennent, qui n'ont pas forcément le temps de venir le reste de l'année. Le troisième dimanche d'août, c'est un peu la rentrée. Donc tout le monde est content de se retrouver aussi. Et ça fait aussi des nouvelles voitures, d'autres personnes qui viennent. Et. Et donc voilà, c'est bien aussi de continuer pendant les vacances.
Tiens, passez Stéphane avec vos chiens, tiens. Passez au parking Leclerc. Hein,
bah, faut bien nous voir, ouais.
Voilà.
Et sinon, donc on parlait des Young Timers, mais par contre, il y a aussi. On a pas mal d'avant-guerre. Là, pour le coup, c'est les ancêtres. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on peut voir des voitures des années 30 jusqu'aux voitures donc des années 80. Et pour justement les avant-guerres, il y a un rallye qui est organisé le premier dimanche de mars, qui va partir de Chevreuse.
D'accord.
Il y a trois associations du coin, dont le Rendez-vous de la Reine, qui se mettent ensemble pour organiser ce rallye. Et donc, il y aura deux boucles de 30 km dans la région. Donc,
c'est 1er mars alors.
Le premier, je sais pas
exactement, mais
c'est le premier dimanche de mars. Donc au départ de Chevreuse, voilà, deux boucles de 30 km, une trentaine d'avant-guerre qui vont parcourir la région. Et là, c'est pareil, aller voir sur les petites routes ces voitures passer, ça reste toujours un grand plaisir.
Très bien, allez, la deuxième page de pub en attendant.
La semaine dernière, mon smartphone m'a lâché. J'étais en panique car c'est mon outil de travail. Et en tant que professionnel, je n'ai vraiment pas le temps de courir les boutiques de réparation. Mais la chance est avec moi, car j'ai discuté avec un ami qui est satisfait de la réparation de sa tablette effectuée par un professionnel de la région. Mose Réparation. Ni une ni deux, je le contacte. Et il s'est déplacé rapidement pour dépanner mon téléphone. Et j'avais le choix, à domicile ou au travail. Le tout à des conditions très attractives. Bref, j'ai gagné un temps appréciable. J'ai payé un prix raisonnable et j'ai été dépanné rapidement, avec le sourire. Ma solution dorénavant, c'est Mose Réparation. Avec un Z, sans hésitation. Professionnel ou particulier, pour un devis et un déplacement offert, www.mobileonthesite.com.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
RVE, vivez votre région. RVE 103.7.
Get down, get down, get down, get down, get down.
Donc 10h57, Stéphane, juste un petit mot, vous êtes photographe aussi.
Oui.
C'est facile de faire la transition entre donc la pratique de pilote, ouais, et puis photographe. On comprend peut-être mieux les choses, on perçoit peut-être mieux dans cette photo.
Non, alors pour prendre les photos quand on est dans la voiture, on sait un peu ce que ça va donner. Ça c'est sympa. Et puis surtout là, en fait, ça, je vais faire tout le parcours à nouveau, et c'est ce qui est sympa, c'est que je vais prendre des endroits, je vais relever des spots pour l'année prochaine. Donc ça me permet aussi de faire des grandes reconnaissances pour prendre des photos. Bon, en fait, j'aurais pas trop le temps de regarder, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 endroits, je pense que je vais retenir pour les prochaines années.
Bon, il y a d'autres courses après le Monte Carlo historique, ouais, non?
Alors, nous, en historique, je sais pas si on va recourir, mais c'est toujours avec plaisir de toute façon. Si on peut, on regarde souvent, au début d'année, on se dit, tiens, on ferait bien tel rallye, mais après, il faut du temps, c'est un coût aussi, oui, c'est pas évident. Voilà, après, en moderne, avec Jean-François, mon pilote, on essaie de remonter une voiture et de refaire un programme. On en reparlera à l'occasion lorsque ce sera bien défini, mais il y a des chances qu'on recourt quand même à partir de cet été.
Très bien, bah écoutez, bonne chance, bon Monte Carlo historique avec le Calico RVE.
Exactement, ce sera avec plaisir, hein, on portera les couleurs de RVE.
Et puis vous nous donnez le résultat et puis on donnera tout ça à nos auditeurs dans l'émission du 9 février.
Hein. Parfait, voilà. Merci.
Merci Stéphane. Merci, ça s'est bien passé, vous voyez ?
Oui.
Cette première radio.
Très agréable.
Hein, voilà. Merci à notre ami Stéphane, donc Renaud aussi. On va rappeler où se trouve le centre. Et ça a un coût de venir demander à ce qu'on mette son chien sur les bons rails ?
Oui, ça a un coût, effectivement, mais c'est un investissement à long terme. Puisque après, derrière, si on va faire l'éducation de son chien dès l'âge de 3 mois, un chien ça s'éduque sur 15-18 mois, un enfant sur 18 ans, donc ça va quand même un peu plus vite. Hein.
C'est bien
encore
ça.
18 ans, c'est pas toujours vrai. Mais et ensuite, après, c'est 10 années de bonheur, on profite à fond de son chien, on peut lui donner énormément de liberté. Donc c'est important. Oui, ça a un coût,
Voilà. Voilà. Donc vous avez un site internet où il y a tous les coordonnées pour
Club
Canin
dans la ville. Voilà. Club Canin dans la ville. Moi je vous remercie de m'avoir encore invité.
Non, mais c'est un plaisir Stéphane, sympa. On est là pour ça. Merci aux deux Stéphane, merci donc à notre ami Benoît, puis on va remercier Guillaume, hein. Une nouvelle fois excellent aux manettes ce matin, il l'avait été l'année dernière, et puis il l'est depuis le début de cette année. Allez, la semaine prochaine, eh bien, on vous parlera du marathon des Yvelines qui s'est déroulé sur Cernay-la-Ville dimanche dernier. On a ramené quelques petites interviews, ça sera un des sujets de notre émission de la semaine prochaine. Bon dimanche, et puis rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci pour votre immense fidélité.
National et international dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, les discussions sur la réforme des retraites se poursuivent alors que des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées hier face à la réforme des retraites. Édouard Philippe a annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot de 64 ans sous condition, tout en maintenant un âge d'équilibre dans le futur système universel par points. Les réformistes comme la CFDT ont salué ce retrait, marquant la volonté de compromis selon le syndicat. L'UNSA a évoqué un signe d'apaisement. Du côté des opposants, la CGT, par l'intermédiaire de Philippe Martinez, affirmé être plus que jamais déterminé à obtenir le retrait de la réforme. De son côté, Emmanuel Macron a salué un compromis constructif et de responsabilité. 3 kayakistes, 2 hommes de 46 et 47 ans et une femme de